Bienvenue à tous sur Divergence FM, c'est le quatrième numéro du magazine que Divergence FM consacre au Festival Montpellier Danse 2010, tous les jours de 13h à 13h20. On a reçu déjà Kader Atou hier, Salia Setou. On reçoit aujourd'hui Cécilia Bengolea et François Chéniaud, les Benjamins de l'édition 2010. Et on les reçoit pour trois pièces qu'ils vont présenter demain au 1er juillet. On aura la chance de voir Pâquerette demain à 19h et à 21h. Castor et Pollux, c'est samedi et dimanche. Et Sylphide, c'est mardi et mercredi, si ma mémoire est bonne. Mais vous retrouverez tout ça sur le site de Divergence. On les retrouve juste après la conférence de presse de Montpellier Danse. Ils sont encore un peu fatigués. Mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on les écoute. Cécilia, François, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là pour la 30e édition de Montpellier Danse. Vous êtes là pour trois pièces, vos trois dernières pièces, quasiment vos trois premières pièces.
Ouais.
Il y avait la première collaboration, Miranda Remix. Puis ensuite, il y a eu ces trois pièces qui ont été largement jouées,
oui,
qui ont beaucoup tourné. On a beaucoup parlé de ces trois pièces-là, on a beaucoup parlé de Pâquerette, on a beaucoup parlé de Sylphide, on a beaucoup parlé de l'irruption, de cette réirruption comme ça, du corps, de la sexualité dans la danse, de choses qu'on avait un peu mis de côté, dans cette façon de réintroduire un rapport au corps qui est complètement différent, qui est aussi un rapport à... comme vous avez pu le dire en conférence de presse, qu'un rapport sur l'intérieur du corps autant que sur l'extérieur, sur comment est-ce qu'on vit. Le spectateur voit souvent l'enveloppe du danseur et très peu ce qui se passe à l'intérieur. Il y a cette volonté chez vous là, de pouvoir dire que c'est l'ensemble du corps qui travaille, qu'il n'y a pas de tabou, qu'il n'y a pas de choses qui ne travaillent pas, auxquelles on ne pense pas. Cette chose-là qui a traversé... il y a très longtemps l'histoire de la danse, et puis qui a été complètement oubliée. Comment vous la faites ressurgir ?
C'est vrai que dans chaque pièce, on rêve de ne pas considérer notre corps comme une seule mécanique ou une seule signe dans l'espace, mais qu'on peut être un corps plein, un corps creux, un corps à déchirer, un corps à pénétrer, un corps à étouffer, cette espèce d'étirer ou d'élargir ce qu'on croit que la danse peut nous faire faire. Et que on adore faire des battements et on adore faire des sauts de chat, mais peut-être si on fait un saut de chat, c'est aussi en fait qu'un glaive nous transperce et que du coup, il y a quelque chose qui... des circuits, des trajets, des mythologies qui nous enveloppent et nous déchirent.
C'était pas clair.
Si, c'était clair. Alors, c'est cet autre côté là qui suit. Tu parlais de mythologie. Ces trois pièces-là ont un rapport très fort à la mythologie. Et vous trois, vous deux, vous avez un rapport à l'histoire de la danse et à une histoire qui est réfléchie. Toi, à l'anthropologie, aux danses chamaniques de tes dernières années d'études. Toi, à une position sur le genre, la façon dont les hommes, les femmes ont vécu ça différemment. Cette façon de plonger dans la mythologie, c'est une façon de faire ressurgir quoi, les vieux tabous, les vieilles peurs, ou juste une autre modernité, une autre façon de penser.
C'est vrai que les mythes nous aident à faire des pas, parce qu'on a vu que auparavant, dans l'histoire, il y a bien eu des héros ou des héros vaincus qui ont réussi ou pas réussi à faire des prouesses ou des aventures invraisemblables. Donc, comme on a dit tout à l'heure à la conférence de presse, On trouve d'abord la situation dans laquelle on veut se mettre physiquement, que ce soit un god dans l'anus qui transforme notre rapport symbolique au corps nu, et aussi ça construit des imaginaires chez les spectateurs et chez nous qui permet certains gestes et certains temps de s'écouler d'une façon précise et singulière. Et après, quand c'est fixe, c'est pareil, on a les dispositifs de latex pour être exclu de la lumière, de l'air, et pour être anéanti dans nos fonctions. Et après, on se demande qui a pu nommer quelque chose de l'ordre du semblable dans la situation ou dans la construction du monde pour presque emprunter les mythes et les coller à notre expérience comme si c'était les parents de l'expérience, cette mythe, comme s'ils devenaient venaient protéger nos actions. Et on est très emparés dans ce sens par l'histoire, parce qu'on n'est pas seul, isolé à être les artistes qui inventent, mais on redécouvre des possibilités physiques qui étaient déjà là auparavant, j'ai l'impression. Qu'on ne peut pas se vanter d'inventer quelque chose aujourd'hui dans l'art, mais plutôt de réinvestir, quoi. Et c'est ce qui nous permet cette reconnaissance de l'histoire dans notre travail, de ne pas nous mettre comme les créateurs et des idées absolues, ready-made, je ne sais pas quoi, mais plutôt de confirmer que dans l'histoire, il y a déjà, il y aura encore des thèmes comme ça qui nous réunissent.
Il y a aussi un côté qui vous caractérise, c'est la performance. On a toujours l'impression, et on a toujours envie d'ailleurs de vous définir comme des danseurs en performance plutôt que dans une pièce de répertoire, parce que votre corps est en train de traverser une épreuve au moment où vous dansez. C'est quelque chose que vous avez envie de continuer de suivre, ou c'est une épreuve de jeunesse que vous vous êtes infligé ?
Non, pour moi, c'est la raison de faire de la danse presque, de mettre à l'épreuve, infliger quelque chose à notre corps, mais aussi lui donner la chance d'une intensité, de durée extra-quotidienne, de perception inouïe. C'est, comment dire, pour moi, faire de la danse, c'est deux choses. C'est à la fois un rêve esthétique et en même temps un rêve de vie, presque de sentir une intensité physique et vitale toujours renouvelée. Et je pense qu'à chaque fois, les façons de faire changent, mais qu'il y a quelque chose qui me semble tellement important.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter quelqu'un que vous connaissez, je crois, qui est aussi un body performer. C'est Jean-Luc Vernat, avec ses Dum Dum Boys.
Funky town, won't you take me to
François Cécilien, vous êtes, je le disais en rentrant, les Benjamins de cette 30e édition, qui est une édition qui convoque beaucoup de figures de l'histoire récente de la danse. On a plein de maîtres ici, présents ou évoqués, depuis Trisha Brown, William Forsythe, De Kersmaeker, etc. Et vous êtes, vous, dans cette position de jouer vos trois pièces et d'être les derniers petits jeunes. Qu'est-ce que ça fait d'être comme ça dans un espèce de rassemblement de figures de l'histoire alors que vous avez vos 30 années pour regarder ça?
Moi, je suis surtout reconnaissant et content à Jean-Paul de nous donner la possibilité de faire une chose qu'on n'a jamais faite, c'est-à-dire de jouer ces trois pièces pour le même public ou dans la même ville. Je pense que je me réjouis beaucoup. J'ai l'impression que c'est génial pour les artistes, mais ça peut être aussi super pour le public. Non pas pour essayer de résoudre des artistes ou de les comprendre de trois coups de crayon, mais que je pense qu'il y a des dialogues subliminaux, inconscients ou conscients entre les pièces, et que c'est une super initiative, je trouve, de Montpellier, de temps en temps comme ça, permettre à des artistes, à quel que soit l'endroit dans lequel ils soient dans leur œuvre, de partager plusieurs pièces. Et c'est vrai que pour moi, c'est aussi la possibilité de faire en sorte que faire la danse, c'est pas juste venir, montrer quelque chose, repartir, mais c'est peut-être aussi comprendre dans quel contexte ça s'inscrit. Et là, on vient juste d'arriver, mais on va au studio, je sais pas, moi je connais pas beaucoup cette ville, mais je sens qu'il y a quelque chose aussi à comprendre avec les lieux où on va danser, qui d'autre a dansé là, qu'est-ce qu'on vient, de quoi il va s'agir pour nous, quoi.
Toi, Cécilia, tu connais cette ville, ce que tu as fait, exerce la formation professionnelle du Centre chorégraphique national en quoi, 2004-2005,
oui.
Il y a 5 ans, juste avant que vous démarriez votre première collaboration.
Oui.
Et alors, ce parcours-là, tu reviens comme ça, 5 ans après, dans cette ville qui t'a accueilli pendant un an, comment tu vis ça?
Moi, je suis déjà revenue avec Mark Tompkins en 2006. Et pendant le festival, on a montré Animal Femelle. L'an dernier, avec Mathilde sur Pavlova, on a créé aussi pendant la saison de Montpellier. Donc, c'est pas la première fois que je reviens, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on montre notre travail. Et je pense aussi que c'est une très bonne idée de la part de Jean-Paul, Montanari et Gisèle de nous inviter, de nous permettre de montrer nos pièces ensemble, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas fait avant. Bah, on a montré la même semaine à Marseille, Pâquerette et cette fille, et c'était déjà une très bonne idée de la part de Merlin, parce que... Et pour moi, ça fait de plus en plus... Après, on rigole, on dit chaque fois qu'on va montrer une nouvelle pièce, on doit montrer toutes les autres, mais ça fait beaucoup de sens pour que le public... a une idée d'enchaînement, des idées parcourues, etc. Que ce n'est pas une pièce qui peut permettre de dialoguer forcément toujours avec le public. Parfois, il faut montrer plus de choses pour être vraiment présent. Ouais, je trouve que c'est super, il faudrait faire à chacun.
C'est vrai. Ça semble assez rare en danse, c'est pour ça. Mais c'est vrai que dans d'autres, notamment dans les arts visuels, c'est plus fréquent qu'on ne présente pas une pièce, on présente plusieurs pièces qui viennent dialoguer les unes avec les autres, même avant que les artistes aient leur rétrospective posthume. Il y a quelque chose d'assez évident et de logique. Et en danse, je ne sais pas, à cause des coûts de fonctionnement, c'est plus rare, mais je pense que c'est vraiment génial.
En même temps, c'est très rapide, non, comme parcours? Ça fait 5 ans, vos pièces sont déjà diffusées sur quasiment l'ensemble du globe. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir gérer. Cette collaboration-là, elle vous prend tout votre temps aujourd'hui?
Non, on a aussi le temps de faire des autres pièces avec des autres chorégraphes, d'aller au sauna, de vivre notre vie et dans le temps libre, quoi. Mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps, mais bon. Et en ce moment, c'est mieux être au travail que... Non, j'ai n'importe quoi, je sais pas, faire ça.
On va vous retrouver trois fois, demain pour Pâquerette, la semaine prochaine pour dimanche et lundi pour Castor et Pollux d'abord, et ensuite
mercredi jeudi
pour Sylphide. Il n'y a plus beaucoup de place, hein, je crois qu'il faut que les auditeurs se dépêchent s'ils veulent vous voir, parce que les jauges sont petites et il y a beaucoup de gens qui le veulent.
Et c'est vrai que c'est assez important, toujours cette question des jauges petites, c'est qu'elle permet le plus d'intensité dans le dialogue. Les théâtres essaient toujours de bourrer, mais je crois que c'est chiant dans les festivals qu'il n'y a pas de place, mais en même temps c'est aussi la condition de conditions vraiment idéales.
Idéal, optimal.
Pour les spectateurs et pour nous.
Merci à tous les deux, passez une bonne semaine montpelliéraine.
Merci.
Voilà, ce quatrième numéro du magazine Codivergence consacré à Montpellier Danse est maintenant fini. On se retrouve demain avec Régine Chopineau et ça sera vraisemblablement Manuel Plaza qui animera les ondes. À demain.